Bonjour à tous. On m'a demandé du coup d'intervenir sur des exemples d'actions. On va quitter un peu le Gers pour se déplacer plus au nord en Charente-Maritime. Et on verra si c'est mieux, pas sûr. Et donc je vais moi vous présenter mon syndicat d'eau et ce qu'on peut faire en termes d'action préventive sur un territoire. Donc, je travaille à O17, syndicat d'eau potable du département de la Charente-Maritime. Contrairement à ce que j'ai compris dans le Gers, nous, il y a un syndicat d'eau potable majoritaire qui fédère la majorité des communes du département et des collectivités. On a été créé en 1952, ça commence à dater. Et donc, on a les compétences classiques d'eau potable, d'assainissement collectif et d'assainissement individuel. Comme vous le savez, dès lors qu'un maire veut apporter de l'eau au robinet de ses administrés, il doit choisir un mode de délégation, donc soit chez nous en régie publique, c'est la RES, ou après il passe par un délégataire privé. Pour bien comprendre la différence, donc nous on est propriétaire des différents ouvrages à O17, on a un peu cette relation de propriétaire-locataire, et après on a des exploitants, Veolia, Agur, Lassor, enfin, je ne sais pas qui c'est ici, mais qui du coup s'occupe d'entretenir les réseaux, la facture d'eau, etc. Et on a différents principes, des gros blablas de solidarité, résilience, péréquation et d'adaptation au changement climatique, mais je détaillerai ça dans le concret parce que pour l'instant ça reste que des mots. Donc, d'où vient notre eau en Charente-Maritime? J'ai entendu dans la présentation précédente, c'est important de comprendre d'où vient l'eau pour savoir comment on peut la protéger. Donc, en Charente-Maritime, il y a 70% de l'eau qui provient directement des eaux souterraines. On a plusieurs types de nappes, des nappes libres qu'on appelle communément les nappes phréatiques. Ensuite, on a un horizon imperméable qui protège une autre nappe qui, elle, est une nappe captive qui peut aller jusqu'à 500 mètres de profondeur. Et on a la chance que cette nappe soit relativement préservée des pollutions anthropiques. Et donc, on la privilégie pour l'eau potable. Et ensuite, on a des prélèvements directement dans la rivière, donc dans le fleuve Charente, pour 30% de nos prélèvements. Je zoome un peu sur nos réseaux d'eau parce que ça vous permettra de bien comprendre le contexte et nos problématiques. Donc vous voyez tous les petits triangles sur la carte, ce sont nos captages d'eau potable. On en a 65 pour alimenter l'ensemble de la population. La population, c'est quoi ? C'est 500 000 habitants toute l'année et on triple, voire on quadruple ce nombre en période estivale. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, tous nos captages sont plutôt au cœur du département. Alors que les besoins, eux, sont évidemment sur la frange littorale, là où il y a les touristes. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir de l'eau en qualité et en quantité toute l'année, pour tripler aussi le nombre de besoins, encore une fois, en période estivale. Et on a des interconnexions entre l'ensemble des captages qui nous permettent d'acheminer l'eau de l'intérieur des terres vers le réseau littoral. Juste pour préciser, on a mené une étude récemment, une étude prospective, pour savoir est-ce que nos réseaux étaient adaptés à l'horizon 2030-2050 pour anticiper non seulement les mouvements climatiques et l'évolution démographique de la population. Et en fait, on a conclu que dès 2030, on n'aurait pas assez d'eau pour s'adapter et répondre aux besoins de la population qui, elle va évoluer. À la fois la population de toute l'année, mais aussi les touristes. Donc, en gros, si je résume nos enjeux, on a une ressource en tension, que ce soit en qualité ou en quantité, pour l'approvisionnement en eau potable du département. Mais on a, face à ça, des actions qui restent possibles, avec une gestion patrimoniale de la ressource. Et là, je vais vous détailler ce qu'on peut mettre en place sur différents territoires en termes d'actions préventives. Donc, vous voyez sur la carte de droite, on a différents territoires, mais aussi tous les points orange. L'Agence de l'eau a évoqué tout à l'heure les captages sensibles. Ce sont aussi nos captages sensibles où des actions vont être mises en place dans incessamment sous peu, j'espère. Donc, comment on peut mettre en place des actions? Il faut déjà une ambition politique, ça c'est hyper important, Et on a la chance à Odyssey d'avoir des élus qui ont voté une stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique, avec des axes forts de préservation de la ressource, mais aussi de proximité à l'échelle de nos territoires. Donc voilà, on essaie de travailler, pas de manière isolée, mais avec les élus de l'ensemble des communes du département. Donc, comment on peut mettre en place des actions préventives ? En Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir le programme ressources. Donc, c'est un programme volontaire. Il n'y a pas de réglementation là-dedans, avec des objectifs de reconquête de la qualité de l'eau, d'accompagnement au changement de pratique et puis d'implication, on l'a dit aussi précédemment, de l'ensemble des acteurs d'un territoire pour trouver ensemble des solutions qui permettent de reconquérir durablement la qualité de l'eau. Pour ce faire, il y a des actions concrètes et je vais les illustrer par la suite. Pour vous dire, on n'est pas seul, hein, en Nouvelle-Aquitaine, voilà, il y a 26 collectivités engagées, 57 aires d'alimentation de captage et puis des animateurs ressources comme moi qui ne font qu'augmenter. Si je zoome maintenant sur le département de la Charente-Maritime, vous voyez plusieurs territoires colorés. Tous ces territoires font l'objet d'un programme ressources. Moi, je vais plus vous illustrer le territoire en plein cœur du département, mais par cette diapositive, je voulais vous parler un peu du contexte agricole du département pour comprendre aussi le paquebot de l'agriculture, comme il est dur à bouger. Ça s'explique aussi par des orientations politiques qui ont été prises de nombreuses années, des orientations économiques, et on ne peut pas tout faire changer en claquant des doigts. Donc, en Charente-Maritime, la majorité des cultures, céréalières notamment, donc déjà, c'est un territoire très céréalier, on retrouve aussi de la viticulture plutôt au sud du département, l'élevage qui est fortement en déclin, comme partout ailleurs, je pense, mais encore... Voilà, c'est vraiment marqué sur le département. Et donc, les céréales qui constituent la majorité de l'occupation agricole du territoire sont à 80-90% destinées à l'export. En fait, on a un port à La Rochelle et donc il y a les cultures qui partent majoritairement à l'export et on a tous les industriels agroalimentaires qui ont un peu, on va dire, déserté le département, ce qui montre qu'il n'y a pas de transformation de l'agriculture sur le territoire, pas de valorisation. On ne crée pas de valeur ajoutée sur les exploitations, il n'y a pas de transformation. Qui dit pas de transformation dit on utilise la matière brute et on l'envoie en bateau. En gros, il n'y a pas non plus d'attente en termes environnemental. Quand je dis d'attente, il n'y a pas de valorisation économique non plus. Donc on peut comprendre que les agriculteurs, ils ont un produit, on leur vend à tel prix très facilement par les intermédiaires que sont les coopératives ou des négociants. Et donc ils ont dans un schéma économique sur le territoire plutôt simple pour eux, qui est volatile, certes, avec des prix qui peuvent fluctuer, mais en tout cas, qui fonctionne. Pourquoi changer ? Donc nous, pour accompagner les agriculteurs dans des évolutions de pratiques favorables à la qualité de l'eau, on travaille sur différents leviers agronomiques. On les a plus ou moins cités jusqu'à présent, mais on a parlé de la couverture des sols, hyper important. On travaille aussi sur les surfaces en prairie, l'augmentation des surfaces en herbe, même s'il faut quand même leur trouver une utilité, vu que je vous ai dit qu'il y avait de moins en moins d'élevage. Cette herbe, c'est chouette, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Ensuite, on améliore, on essaie d'accompagner la gestion des intrants, les certifications, notamment l'agriculture biologique, le fait d'augmenter également les surfaces d'infrastructures agroécologiques, donc les haies, les ripisives, les bandes enherbées. Et enfin, un point sur la diversification des assolements. On est sur des territoires où, clairement, sur les exploitations, il y a 3-4 cultures qui se battent en duel. Et en gros, c'est problématique parce que ce qui va être utilisé sur ces cultures-là, même si à l'échelle d'un blé ou d'un maïs, du semis à la récolte, on ne va pas non plus avoir 40 matières actives, mais celles qu'on va avoir sur un territoire, elles vont toutes être utilisées au même moment. Et donc, ça va entraîner un vrai risque pour la ressource en eau, parce que toutes les molécules vont être utilisées quasiment au même moment, et c'est les mêmes molécules. On est vraiment sur un territoire qui se spécialise, et donc nous, tout l'enjeu, c'est vraiment d'aider aussi les agriculteurs à diversifier leur assolement, et si possible, en intégrant des cultures plus économes en intrants. Pour ce faire, ça a été aussi illustré, on travaille essentiellement sur les filières agricoles. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier maintenant sur le même territoire. je commence à bien connaître les agriculteurs et les générations aussi qui se renouvellent. Et au début, mon métier n'était pas du tout le même. Vraiment, on travaillait à l'échelle de l'exploitation. On allait voir l'agriculteur, ses champs, on regardait ses pratiques. Et clairement, on se mettait vraiment des œillères à aller voir uniquement l'agriculteur. Aujourd'hui, on essaie d'avoir un regard un peu plus global sur le système agricole. On l'a illustré tout à l'heure en allant du producteur au consommateur, mais c'est hyper important parce qu'on s'aperçoit parfois que l'agriculteur n'est qu'un maillon d'un système et que c'est tout le reste aussi qu'il faut faire bouger pour que l'agriculteur lui-même évolue. Donc je l'illustre par une action qu'on a menée de longue haleine. Ça a commencé en 2018 sur les filières agricoles. Je vous l'ai dit, on est sur un territoire spécialisé, peu de valeur ajoutée, pas de transformation. Et donc, nous, on s'est dit qu'il faut absolument diversifier les rotations de notre territoire pour soutenir des filières agricoles locales, sécurisées, favorables à la qualité de l'eau et qui entraînent une diversification de nos systèmes céréaliers. Et pour ça, clairement, on s'est lancé dans une démarche de recherche d'industriels en mode territoire, cherche industriel pour valoriser des cultures économes en intrants, en se disant, si on a un industriel qui s'engage sur un contrat pluriannuel sur des volumes, sur des cultures qui n'utilisent pas ou peu d'intrants, eh bien, ça va forcément entraîner des changements à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, c'est une démarche qui a pris du temps parce qu'il fallait déjà trouver quelle culture pouvait être adaptée à nos contextes pédoclimatiques, quel industriel, quelles expérimentations on pouvait mettre en place et puis ensuite comment confirmer l'essai, on va dire. Les premiers résultats se sont centrés vers la culture du soja qui a pour intérêt de ne pas du tout utiliser de nitrate vu que c'est une légumineuse. On a travaillé pour ce faire avec un transformateur qui permettait de toaster le soja et puis les poulets de louer qui, eux, avaient besoin de relocaliser leur approvisionnement en soja, donc qui étaient très dépendants du soja qui, du coup, était importé. Et ils voulaient relocaliser le soja, utiliser du soja français. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas, vu qu'on a un toaster, un industriel. Et ensuite, on avait aussi un distributeur autour de la table qui était Coopérative U, les magasins Hyper U, en se disant qu'eux, ils voulaient valoriser leur œuf marque de distributeur en racontant l'histoire de toute cette filière. Donc, petit à petit, chemin faisant, donc, rassemblant tous les maillons de la chaîne, donc on a bien l'agriculteur, le producteur d'eau, et nous, on s'est positionné comme facilitateur. Le terme est approprié pour nous aussi. En gros, notre taf, c'est de mettre tous les gens autour de la table et voir ce qu'on peut faire. Des partenaires techniques, typiquement Terre Innovia, la Chambre d'agriculture, pour nous accompagner sur un itinéraire technique favorable à la qualité de l'eau. Et ensuite, un transformateur, un utilisateur, un distributeur et puis un consommateur final. Donc là, il y avait des besoins de 100 hectares et on a travaillé avec tous les maillons autour d'un contrat de 3 ans, donc avec des prix stables. C'est intéressant pour les agriculteurs parce que ça leur fait une culture où ils ne sont pas forcément dépendants de la fluctuation du marché international. Donc là, ils ont un prix stable, ils ont un volume et on arrive à une bonification aussi en termes de prix vu que les derniers maillons, donc le distributeur et aussi loué, sont engagés sur une prime pour mettre en place une charte pour préserver la qualité de l'eau. Donc on a vraiment un système vertueux sur l'ensemble de la filière pour mettre en place une culture qui permet aux agriculteurs d'avoir un pied dans une nouvelle culture et dans l'utilisation de moins d'intrants. Le métier change un peu là aussi parce que avant, je dirais que on se serait arrêté à aller voir l'agriculteur, etc. Là, on a aussi dû convaincre les responsables de magasins. Je rentre un peu dans les détails pour vous illustrer la grandeur de la problématique. Il a fallu aller voir à l'échelle de la Charente-Maritime tous les responsables de magasins pour leur dire de rentrer dans leur référence nos œufs et pas les œufs qu'ils avaient d'habitude. Parce que c'est bien joli de mettre en place une culture sur un territoire, de faire utiliser le soja. Donc le soja sert d'alimentation pour les poulets, les poules font des œufs, les œufs sont vendus en Hyper U, mais il faut que la référence soit vendue, pour qu'il y ait une rentabilité économique. Donc c'est complexe. En plus du soja, donc, on a travaillé aussi sur d'autres cultures, cette fois-ci à vocation énergétique. Donc il y a le chanvre qu'on expérimente sur le territoire pour l'isolation et aussi pour l'alimentaire. Et il y a également la culture du miscanthus, qui est une culture qui est implantée sur 25 ans sur une parcelle sans intrants et qui, au jour d'aujourd'hui, sert à alimenter la piscine de la communauté d'agglomération de Saintes. Donc là, pareil, on a dû travailler avec les élus communautaires, les techniciens de la piscine, les agriculteurs. Quand je dis travailler, c'est techniquement pour implanter le miscanthus, mais aussi économiquement et juridiquement, parce qu'il a fallu que l'agglomération de Saintes change ses habitudes, on va dire, sur les marchés publics. Déjà, il faut bien construire son marché public pour mettre des clauses qui permettent de, je ne devrais pas dire ça, mais favoriser les agriculteurs locaux. Et vous savez que c'est interdit dans la commande publique. On n'a pas le droit de faire du localisme. Et en plus, d'avoir un contrat. Normalement, les contrats en combustible, pour notamment la chaudière de la piscine, c'est 4 ans max. C'est du bois, c'est 4 ans, et puis on renouvelle. Sauf que le problème, c'est que l'agriculteur, quand on lui dit ben, « t'as un marché pour 4 ans alors que tu viens d'implanter une culture sur 25 », il n'est pas hyper rassuré. Le miscanthus, c'est un investissement de 4 000 euros l'hectare, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc là, on a dû accompagner la collectivité pour mettre en place un marché sur 10 ans. Et pareil, mettre en place et démontrer que ça pouvait être solide juridiquement d'accompagner les agriculteurs sur 10 ans sur cette culture. Donc à chaque fois, j'essaie d'illustrer le fait que oui, il y a des changements à faire à l'échelle de l'exploitation, mais il y a aussi tous les maillons autour, et ce n'est pas forcément que des leviers économiques, c'est aussi des leviers juridiques. À chaque fois, il y a plein de verrous à faire sauter pour qu'on soit sur une action robuste et pérenne dans le temps. Donc là, je vous illustre les tests du miscanthus qui permettent de chauffer la piscine de l'agglomération. On est bien sur un projet de territoire avec vraiment un combustible qui est produit localement et qui va alimenter une chaudière locale. Donc on est en circuit court de l'énergie, on va dire. Ça reste sur des surfaces limitées, je préfère le dire, parce que évidemment l'objectif n'est pas de mettre du miscanthus partout sur le territoire, mais sur des surfaces très, très stratégiques, des secteurs sensibles, ça peut être intéressant. Voilà pour la partie filière. En termes de levier d'action, j'illustrerai ensuite les aides qu'on peut mettre à disposition des agriculteurs, quand même, on a parlé de prise de risque tout à l'heure, mais pour les accompagner dans cette prise de risque. Donc nous, on n'a pas utilisé le système PSE, parce qu'on est en attente des PSE captage de l'Agence de l'eau, mais les élus ont décidé d'utiliser le régime des minimi, donc c'est un régime européen qui permet de distribuer sur un certain montant des aides, notamment aux agriculteurs, sous réserve de changements de pratique. Donc on a co-construit avec la profession agricole des cahiers des charges, notamment pour privilégier le désherbage mécanique à la place du chimique, et aussi des cahiers des charges pour intégrer dans les rotations, ce que je vous expliquais précédemment, des cultures plus économes en intrants. Donc aujourd'hui, sur le territoire qui était le territoire central sur la carte du département tout à l'heure, depuis 2023, on est quand même à plus de 800 hectares accompagnés en termes de conversion de culture. Donc par exemple, on peut passer d'un maïs à une légumineuse, ou à du chanvre, à du miscanthus. Il y a aussi de la sylphie, parce qu'on a des projets de méthanisation sur le territoire. Donc voilà, c'est des conversions qui se font petit à petit sur les exploitations, avec des aides qui viennent du syndicat d'eau, de la facture d'eau, pour accompagner ces changements. Il y a aussi ce levier-là d'action qui est possible. J'illustrerai ensuite le levier foncier. Je suis désolée, ça va faire un peu une liste à l'après-vert, mais j'espère que vous aurez des questions après. Le levier foncier, parce que oui, en tant que producteur d'eau potable, c'est un levier qu'on actionne également. Pareil, pas partout, mais sur des zones très stratégiques, très vulnérables vis-à-vis de la protection de la ressource. Donc pourquoi on utilise le levier foncier ? Déjà, pour tout ce qui est pollution dite chronique, nous, on avait des anciennes carrières à proximité de captage qu'on a dû réhabiliter. On a des gouffres aussi qui servent de lieu d'infiltration préférentiel de la ressource vers les captages. Donc là, pareil, il a fallu les protéger, les aménager, et également pour lutter contre les pollutions diffuses d'origine agricole. Donc ça nous permet d'être plus efficaces dans des secteurs très sensibles. Donc il faut vraiment avoir une stratégie foncière qu'on a mis en place, pareil, en concertation avec les différents acteurs du territoire. Et nous, en tant que syndicat d'eau plutôt rural, notre volonté reste de maintenir une activité agricole. Donc l'enjeu, c'est d'avoir une action forte et localisée. Donc on achète du foncier, on présente nos dossiers en commission SAFER. D'ailleurs, on a signé une convention avec la SAFER pour nous accompagner sur ces dossiers. On met en place une stratégie foncière pour cibler les secteurs d'achat. Ces secteurs d'achat sont à proximité des captages dans des zones stratégiques, mais ils peuvent aussi être plus éloignés pour faire l'objet d'échanges. On présente nos dossiers en comité technique SAFER. Et ensuite, nous, on a utilisé l'outil du bail rural environnemental pour mettre soit de l'agriculture biologique, soit de la prairie. Et enfin, je terminerai par des actions plus structurantes. Je vais surtout illustrer une action qui est de dire comment on peut utiliser le levier de la commande publique pour accompagner aussi les transitions agricoles. Donc, on s'est inspiré de la démarche Terre de Source qui a été initiée par Eau du Bassin Rennais. Aujourd'hui, on répond à un appel à projet européen pour répliquer cette démarche à l'échelle de plusieurs territoires en France. Et donc, cette démarche, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va utiliser un marché public innovant pour qu'une collectivité, dans le cadre de sa restauration collective, puisse non seulement rémunérer un agriculteur pour ses denrées alimentaires, mais aussi le rémunérer pour un bonus environnemental qui est justifié par l'engagement dans une démarche de progrès, donc où le summum est l'agriculture biologique, on va dire. Mais dès lors que les agriculteurs sont engagés dans une démarche de progrès, ils peuvent bénéficier de ce bonus, et ça permet aux collectivités de privilégier les agriculteurs sur des secteurs à enjeu haut et de les rémunérer pour une denrée, mais aussi pour une prestation de préservation de la ressource ou d'éducation à l'alimentation durable. Donc ça, c'est un marché qu'on va tester fin 2026 pour une première année, mais ça permet aussi à la collectivité de prendre sa part et de soutenir les agriculteurs qui sont dans une démarche vertueuse en faveur de la qualité de l'eau. À l'échelle du département de la Charente-Maritime, on a plusieurs collectivités engagées, donc vous le voyez sur la carte. Il y a Rochefort, La Rochelle, Aunis-Sud et Sainte, et tous nos territoires en jeu haut qui sont sur cette carte en bleu plus foncé. Et on est également appuyé par des partenaires techniques et financeurs, la Chambre, département, région. Il y a l'établissement public territorial du bassin versant de la Charente et évidemment l'agence de l'eau à Dour-Garonne pour répliquer cette démarche. Donc quelques mots de conclusion. Là, on redescend, on va dire, sur terre, hein, c'est-à-dire à l'échelle des exploitations agricoles. Je me suis permise de mettre quelques images parce que, clairement, avoir des politiques hors sol, c'est pas possible quand on veut accompagner les changements à l'échelle de parcellaires agricoles. J'ai mis des bottes parce que c'est important quand même de mettre les bottes, d'aller voir les agriculteurs, d'aller sur les parcelles. J'ai remis un petit schéma très, très rapide des étapes du changement. Mais je ne sais plus qui tout à l'heure a dit, il y a plusieurs sources d'eau, plusieurs pollutions, etc. Il y a aussi plusieurs agricultrices, plusieurs agriculteurs, plusieurs agricultures. Et ils ne sont pas tous au même niveau de compréhension des problématiques, d'envie ou pas de changer. Et nous, c'est hyper important qu'on s'adapte aussi à où ils en sont, eux. Et on a chacun un petit truc à actionner en fonction des exploitations. Il n'y a pas une solution, en fait. C'est pas simple. Il faut vraiment s'adapter à chaque exploitation, chaque type d'agriculture. Il y en a qui vont être plus intéressés par le matériel et c'est l'entrée qu'on va utiliser. D'autres qui vont voir que par le prisme financier. Donc là, il va falloir prouver une rentabilité économique d'un système. D'autres, ils vont plus être sur des prises de conscience pour leurs enfants, leur famille, etc. Donc on va pouvoir avancer différemment. Mais il faut vraiment s'adapter aussi à chaque modèle agricole. Et puis j'ai fini par une boîte à outils parce que nous, en tant qu'animateurs, voilà, on est sur des démarches volontaires, on a des financements, on a une boîte à outils. Il n'y a pas grand-chose dedans quand même, Parfois, on est un peu seul, parce que, on l'a vu depuis ce matin, la réglementation ne nous aide pas beaucoup, la politique agricole ne nous aide pas beaucoup. Donc, en gros, on sort les rames sur un territoire pour dire, allez, ensemble, on va changer. Mais on n'a pas beaucoup de directives nationales ou autres qui vraiment poussent en faveur de ce changement, voire parfois, ça se contredit quand même beaucoup. Donc, faut sortir les rames de temps en temps. Et puis, j'ai mis un dernier mot parce que je vous l'ai dit, c'est un programme volontaire. Les préfets, quand même, commencent en Charente-Maritime à vouloir activer le levier réglementaire. Donc, il y a les zones soumises à contraintes environnementales. C'est des arrêtés préfectoraux où des actions peuvent être rendues réglementaires. Et là, on se dirige vers ça sur certains territoires. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à la table ronde, donc peut-être une question le temps qu'on installe, mais on est vraiment hors délai, donc on va devoir s'installer maintenant.
Bonjour. Je ne sais pas si je peux... Je vois qu'il y a plusieurs mains levées, je suis désolé, j'ai allumé mon micro. Je voulais vous poser une question sur l'accompagnement des agriculteurs. Je regardais un petit peu les tableaux, les chiffres que vous nous avez donnés. J'ai retrouvé une étude qui s'appelle Agrest de 2020, Agrest Nouvelle-Aquitaine. En Charente-Maritime, il y a 4000 exploitations qui font plus de 5 hectares. C'est le premier département de Nouvelle-Aquitaine pour ça. Ça fait 280 000 hectares en céréales et oléoprotéagineux. Vous avez parlé d'aide à la conversion pour 842 hectares. Alors j'ai fait un petit calcul, ça fait 0,3%. On sait que donc, les céréales, vous l'avez dit vous-même, servent avant tout à l'alimentation animale. Les chiffres de la graisse, c'est 0,49 million de tonnes pour l'alimentation humaine et 1,41 million de tonnes pour l'alimentation animale. À La Rochelle, vous l'avez dit aussi, c'est 90% des céréales qui partent à l'export. Donc c'est toute la fertilité du sol français en fait, qui part à l'export. La Rochelle, on en a déjà entendu parler ce matin avec Madame Huc, qui a beaucoup de boulot malheureusement avec les enfants. Je voulais savoir, les céréales, notamment le maïs, c'est une céréale qui est tropicale, qui est extrêmement gourmande en eau. Que ce soit pour le fourrage ou que ce soit pour la semence, ici, moi je suis du 64, on a Euralis et Maïs Adour qui produisent des semences. Pour revenir à nos charentaises, on a eu un déjeuner végétarien ce midi, et je voulais d'ailleurs féliciter les organisateurs, parce que c'est vraiment une très belle initiative. Les Français mangent en moyenne 85 kg de viande par an, c'est-à-dire à peu près mon poids. On sait que la viande, je suis médecin, donc je vais revenir à mes moutons. La viande, c'est cancérigène, et les produits qui sont utilisés pour ces céréales-là sont aussi cancérigènes, on l'a appris aujourd'hui. Est-ce que vous discutez de ces questions-là, de vraiment changer de modèle, en fait, parce qu'avec les agriculteurs dont on a besoin, on a beaucoup plus besoin d'agriculteurs que de médecins, d'ailleurs, parce que si on n'a pas d'agriculteurs, on est mort. Est-ce que vous discutez avec eux de vraiment évoluer vers un modèle notamment moins carné, en fait, et d'arrêter cette folie de faire pousser des céréales pour donner à manger à des vaches qui sont faites pour manger de l'herbe? Merci.
Si vous avez à répondre, bonjour.
Déjà, juste pour répondre à la question sur les 800 hectares, je voulais préciser que ces aides financières ne sont proposées que sur le petit, territoire orange, là, à l'échelle de la Charente-Maritime. Donc, ce n'est pas sur tout le département, parce qu'il faut vraiment qu'on focalise nos moyens financiers sur les territoires qui font objet de programmes d'action. Et ce ne sont que ceux colorés sur le département. Et donc là, pour les 800 hectares, c'était que sur le territoire orange. Mais quand bien même, on est d'accord que ça reste un petit pourcentage, un peu moins qu'à l'échelle du département. Ensuite, pour la partie carnée, oui, on discute de ça avec eux parce qu'on a parlé des filières. Enfin, j'ai parlé des filières agricoles, notamment du soja, de la démarche terre de source. La démarche terre de source, par exemple, une des premières filières qu'on voudrait déployer, c'est évidemment les légumineuses, donc tout ce qui va être lentilles, pois chiches. Donc évidemment, c'est aussi pour accompagner à l'échelle des cantines scolaires une végétalisation de l'assiette. Et donc, qui dit végétalisation de l'assiette, dit changement de paysage aussi qui accompagne cette assiette-là. Pour autant, j'ai pas besoin de trop leur vendre d'arrêter le régime carné, vu que chez nous, il n'y a quasiment plus d'élevage. Donc, c'est pas leur bataille. Mais je voudrais quand même préciser ça, parce que pour la qualité de l'eau, on aimerait bien quand même garder nos éleveurs. Parce que qui dit éleveur dit prairie, dit aussi une gestion différente des cultures, des assolements, des intrants qu'on peut avoir sur une exploitation. Et donc, en termes de préservation de la ressource, ça reste quand même important de ne pas s'orienter vers un modèle agricole unique qui serait une céréalisation de l'activité, mais d'avoir quand même cette polyculture sur les exploitations, polyculture élevage, ça reste important pour préserver la ressource. Pour autant, voilà, on travaille avec eux sur ça. Après, leur réflexion va être, on va là où il y a des débouchés, donc à nous aussi de travailler pour qu'il y ait des débouchés en lien avec ce qu'on veut mettre en place sur les territoires.